Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur, avec chaque commandement une paix, cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le dimanche 25 Tir, 1402 du calendrier iranien, 16 juillet 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Paris a dit non à la demande américaine de saisir 247 millions de dollars d'actifs iraniens. Les médias occidentaux ferment les yeux sur la répression des protestataires en Palestine occupée, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Nous considérons la sécurité du Pakistan comme la nôtre, c'est ce qu'a dit le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique. La Russie met en garde l'Ukraine contre l'utilisation d'armes à sous-munitions. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. La diplomatie iranienne pointe du doigt le silence des médias occidentaux envers les protestations de longue date des détracteurs de Netanyahou dans les territoires occupés. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré « L'empire médiatique occidental a fermé les yeux sur la répression et la violence contre les manifestants dans les territoires occupés, décrivant ces manifestations de protestation comme un symbole de la soi-disant démocratie en Israël. Mais dès qu'il y a le moindre rassemblement et protestation dans les pays non alignés de l'Occident, cet empire médiatique couvre ces événements en lançant un grand battage médiatique, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Le général de division Hossein Salami a déclaré que la République islamique d'Iran considérait la sécurité du Pakistan comme sa propre sécurité, appelant à une coopération renforcée d'Islamabad pour éliminer la menace des groupes terroristes. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami, a fait ses remarques lors d'une réunion avec le général Seyed Asim Munir, chef de l'armée pakistanaise, à Téhéran. Le général Salami souligne que les cas d'insécurité et d'affrontements aux frontières communes entre la République islamique d'Iran et le Pakistan s'inscrivent dans le cadre des complots dangereux conçus par les ennemis, dont le but est de semer les divisions sanglantes entre les musulmans. La Russie met en garde l'Ukraine contre l'utilisation d'armes à sous-munitions contre Moscou, affirmant qu'elle est prête à riposter avec le même type d'armes. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la contre-offensive de l'Ukraine contre la Russie n'avait pas été couronnée de succès. Il a également déclaré que les spécialistes russes devraient examiner l'équipement militaire occidental capturé pour voir si quelque chose d'utile pourrait être utilisé dans la propre armée russe. L'Ukraine a récemment commencé à recevoir des armes à sous-munitions de son principal soutien, les États-Unis. La décision de Washington s'est heurtée à l'opposition de nombreux pays, dont les alliés des États-Unis. Les armes controversées sont considérées comme une menace majeure pour les civils, car elles libèrent un grand nombre de bombes qui peuvent tuer sans distinction sur une vaste zone. La Turquie accepte de ratifier l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Cependant, un nouveau rapport indique qu'Ankara n'a donné son feu vert qu'après que Washington a promis à la Turquie une ligne de crédit du Fonds monétaire international. Selon un article du journaliste américain Seymour Hersh, le président américain Joe Biden s'est engagé à fournir à la Turquie une aide du FMI pouvant atteindre 13 milliards de dollars. Le rapport cite des sources confidentielles et très proches du dossier de la transaction. Ankara avait auparavant conditionné son approbation à ce que la Suède abandonne son soutien aux groupes militants kurdes considérés par Ankara comme des groupes terroristes. L'armée israélienne a tiré des gaz lacrymogènes sur un député libanais qui visitait une zone proche des fermes de Sheba occupées par Israël. Le législateur libanais Qassem Hashem était accompagné d'un groupe de journalistes. Plusieurs personnes, dont Hashem lui-même, auraient été blessées. Les forces israéliennes ont exigé que les journalistes quittent la zone malgré le fait qu'ils se trouvaient sur le territoire libanais. La zone proche de la frontière sud du Liban a récemment connu des tensions après que les forces d'occupation israéliennes ont érigé une clôture de barbelés et construit un mur de béton autour de tout le village occupé d'Al-Qajar. Et enfin, de plus en plus de pays s'éloignent du dollar américain alors que l'Inde et les Émirats arabes unis acceptent de régler le commerce dans leur monnaie nationale. L'accord a été signé lors d'une visite du Premier ministre indien à Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis. La Réserve banque de l'Inde affirme que l'arrangement permettra le développement d'un marché d'échange entre la roupie indienne et le dirham des Émirats arabes unis. Ces dernières années, la tendance à la dédollarisation s'est accélérée dans le monde. La justice française se prononce contre la demande américaine de saisir 247 millions de dollars d'actifs iraniens qui se trouvent en France. Le vice-président iranien chargé des affaires juridiques a déclaré que la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, avait rejeté une demande des États-Unis de confisquer 247 millions de dollars d'actifs iraniens. Mohammad Dehran a déclaré samedi que les États-Unis avaient demandé l'application en France d'un verdict du tribunal fédéral de 1998 sur la saisie d'actifs iraniens pour des accusations de terrorisme présumées. Cependant, a-t-il ajouté, la Cour d'appel française a rejeté l'offre américaine, invoquant l'immunité de la République islamique d'Iran. Le procureur général français, devant la cassation, avait quant à lui demandé l'infirmation de l'arrêt de la Cour d'appel. Le procureur avait argué que l'immunité ne serait pas acceptable lorsque l'affaire implique des questions de terrorisme, a expliqué M. Dehkhan. Cette mesure marque une avancée juridique très importante pour la République islamique d'Iran et le gouvernement du président Ebrahim Raisi, car elle a cimenté l'échec des pressions américaines pour que leur décision soit reconnue et mise en œuvre en Europe, a déclaré Mohammad Dehkhan samedi. Grâce aux efforts des experts juridiques iraniens, la Cour de cassation a finalement rejeté l'appel américain à l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Cela signifie que la plus haute autorité judiciaire de France a rejeté la demande des plaignants américains d'appliquer le verdict sur les 247 millions de dollars des actifs de notre pays, a souligné le responsable iranien. Dehkhan a fait valoir que le verdict aura un effet important sur la procédure judiciaire des pays européens et sur leur courage à rejeter les tentatives américaines de leur imposer des décisions judiciaires qui plus est infondées. En 1998, un tribunal américain avait demandé à la République islamique d'Iran de payer 247 millions de dollars à la famille d'Aliza Flatow, une citoyenne américaine de 20 ans tuée dans l'explosion d'une bombe à Gaza en avril 1995, prétendant que l'Iran était responsable de sa mort pour son prétendu soutien au djihad islamique de la Palestine, qui avait alors revendiqué cet acte.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous et de nous rejoindre pour cette nouvelle émission et pour cette nouvelle édition de débat de Presse TV français. Nous sommes le 15 juillet 2023 en direct depuis la capitale iranienne Téhéran, également depuis le studio de Presse TV français. Les combats se poursuivent dans les territoires occupés, notamment en Cisjordanie occupée et à Jenin. Les innombrables crimes et agressions israéliens ont mené les Palestiniens à se défendre, mais également il paraît que le régime sioniste et l'armée du régime sioniste soient confrontés à des difficultés. Il y a des attaques récurrentes contre des colonies en Cisjordanie occupée et le silence des instances internationales, bien sûr, comme d'habitude. Nous allons évoquer cette situation, la réaction de l'axe de la résistance et les groupes de la résistance notamment, mais également l'axe israélo-américain, la perspective de la situation avec nos deux invités. Mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage et on revient tout de suite après.
Selon certaines sources d'information, des militaires israéliens ont attaqué des localités situées dans le nord de la Cisjordanie. L'agence de presse palestinienne Shehab a annoncé que des militaires sionistes ont lancé une incursion dans le camp d'Askar, situé à l'est de Naplouse. Les combattants de la résistance palestinienne ont tiré sur les militaires sionistes qui ont pénétré dans le camp d'Askar et ceux qui se sont positionnés dans ses environs, a-t-on appris de la même source. Les combattants de la résistance palestinienne ont repoussé une attaque des militaires israéliens à l'entrée du camp Nour Shams, situé à Tul Karem, où des affrontements ont éclaté. Ces jours-ci, la situation est très particulière dans les territoires occupés de la Palestine, notamment en Cisjordanie. Les combattants de la résistance palestinienne recourent à tout moyen pour riposter aux innombrables crimes des sionistes, ce qui a créé une situation spéciale pour les sionistes usurpateurs. L'armée israélienne a attaqué des manifestants palestiniens qui protestaient contre l'expansion des colonies de peuplement à Qalqilya, Beïta, Barka, Karyout, Beït Dajan, situés dans le nord et le centre de la Cisjordanie. 6 Palestiniens ont été blessés par balles et des dizaines d'autres asphyxiés après avoir inhalé de gaz lacrymogène tiré par les militaires israéliens dans la région de Kafr Kadoum, située à l'est de Qalqilya. Un Palestinien a été blessé par une grenade assourdissante et des dizaines d'autres ont été blessés vendredi 14 juillet lors d'un passage à tabac dans la cité d'Oum Safa. Des témoins ont indiqué que l'armée israélienne avait utilisé des grenades lacrymogènes pour disperser la manifestation anticolonisation. Des affrontements similaires ont eu lieu dans les villes de Beïta, Beït Dajan, Karyout et Barka, situées à Naplouse, au cours desquels l'armée sioniste a tiré des balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les Palestiniens.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Nous avons entendu ce reportage, un résumé de la situation dans les territoires occupés. Mais nous avons deux invités avec nous. Il s'agit d'Alexandre Rouget, journaliste et écrivain, qui est avec nous depuis Bugarache. Également Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède, à Stockholm. Je vous dis bonjour, messieurs, et merci de nous avoir accordé votre temps. Monsieur Rouget, si vous voulez bien, on commence avec vous. Donc, dans un premier temps, comment interprétez-vous ces agressions, ces crimes de guerre récurrentes du régime sioniste perpétrés contre le peuple palestinien, sans qu'aucune instance internationale, en fait, évoque ce sujet particulièrement ou sérieusement, ou prend un pas effectif, en fait, dans le droit fil de la fin de ces agressions, Monsieur Rouget. Monsieur Rouget, est-ce que vous m'entendez? Allô, allô. Je pense que Monsieur Rouget ne nous entend pas. On a l'image, on a le son également, mais je pense qu'il y a un petit problème de connexion. Mes collègues vont essayer de régler ceci. Monsieur Rami, est-ce que vous êtes là?
Je vous entends, oui.
Merci beaucoup, oui. Merci pour votre participation. Donc, Monsieur Rami, vous, comment interprétez-vous la situation dans les territoires occupés? Comment pourrait-on interpréter ces crimes récurrents et incessants du régime sioniste perpétré contre le peuple palestinien sans qu'aucune instance internationale ne réagisse clairement et de façon efficace?
Oui. La résistance est toujours la seule solution face à une occupation. C'est dans toute l'histoire de l'humanité, dans tous les pays, dans tous les temps, c'est toujours, chaque fois qu'il y a une occupation, il y a une résistance. Donc les résistants, les Palestiniens dans ce cas, n'ont pas d'autre choix, n'ont pas d'autre alternative. Tout ce qu'ils ont à faire, et ils sont condamnés à le faire, c'est la résistance. Et s'ils font leur travail, ils font leur devoir, alors que les occupants, eux, ils viennent de tous les pays et ils ont beaucoup d'autres alternatives à quitter l'occupation, à quitter la terre occupée et à faire leur travail, disons, à cesser leur occupation des territoires occupés. Hein. La Palestine est un territoire occupé. Donc c'est ce qui se passe en réalité. Et c'est tout à fait naturel et c'est attendu par tout le monde, par toutes les expériences qui sont passées, et c'est la réaction naturelle d'un peuple occupé. Et ils n'ont pas d'autre choix que de résister, car leur pays est occupé par la force. Donc, ce qui a été pris par la force ne sera repris que par la force. Tous les occupants du monde entier, toutes les dictatures aussi, n'ont jamais eux-mêmes cédé. Et c'est leur injustice que par la force, quand ils ont été écrasés par la force. Parce que l'existence de l'entité sioniste elle-même, son existence, est fondée sur l'injustice, sur la force, sur la loi de la jungle, sur la loi des victimes de l'occupation. Et quand les occupants, c'est-à-dire les occupés, c'est-à-dire les victimes de l'occupation, reprennent leur force, ils n'ont plus qu'à résister et à utiliser le langage de la loi de la force, voyez, la loi de la jungle, qui est utilisée, c'est la seule langue des occupants sionistes israéliens qui occupent aujourd'hui la Palestine depuis 1948. Les Palestiniens, bien sûr, comme dans toutes les histoires de l'humanité, toujours il y a bien sûr toujours, même dans le camp des occupés, il y a toujours eu des prêtres, des collaborateurs avec les occupants, et ça a toujours existé. Mais ces occupants, ces prêtres, ils ont été toujours aussi, punis, ils ont eu la punition qu'ils méritent, c'est-à-dire le jugement des occupants, ce sont des prêtres, et aussi aujourd'hui dans les territoiens occupés palestiniens, il y a des prêtres, et parmi eux, ce qu'eux ils appellent l'autorité palestinienne, alors ce n'est pas une autorité palestinienne, c'est une administration gérée par les occupants et qui utilise des prêtres pour gérer l'occupation avec un masque qui cache le vrai visage des prêtres.
Exactement. Merci, Monsieur Rami, pour vos explications. Restez en ligne. Je pense que le problème de la connexion avec Monsieur Rouget est réglé. Monsieur Rouget, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, on aimerait avoir votre point de vue sur ces agressions incessantes du régime sioniste contre le peuple palestinien, mais notamment le silence et l'inaction des instances internationales face à ces crimes perpétrés.
Et quelle est votre question, pardon ?
Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Rouget ?
Oui, mais vous m'avez posé une question ou
Oui, voilà. On voudrait avoir votre point de vue, votre analyse au sujet de ces attaques et l'inaction des instances internationales.
Et sur le silence, évidemment, de soi-disant autorités internationales qui sont censées faire respecter un droit international. Mais en effet, comme vient de le rappeler Monsieur Rami, nous sommes dans une situation où c'est le droit du plus fort, en fait, qui domine le monde, qui domine l'Occident. Et ça fait 4000 ans que ça dure et que nous parlons de droit et de force du droit d'une manière totalement hypocrite, puisque jusqu'à présent, le droit ne peut être appliqué que par quelqu'un qui dispose de la force nécessaire pour appliquer ce droit et éventuellement imposer les décisions juridiques. Donc nous sommes encore une fois dans un deux poids deux mesures où ce sont les puissances les plus fortes et qui ont le plus de moyens de pression dans le monde, qui se permettent de définir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est vrai, ce qui est faux, uniquement parce qu'ils ont plus de moyens militaires que les autres. Donc c'est aberrant, ça n'a aucun sens. Et effectivement, cette logique de droit du plus fort, cette logique de la loi de la jungle qui est celle du capitalisme, qui est celle de l'OTAN, qui est celle des Américains, qui est celle des Israéliens, est une logique infantile, primaire, animale, puisque nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas dans une jungle, nous sommes dans une cité, nous sommes dans une communauté humaine qui est affrontée à des enjeux et à des impératifs globaux qui concernent l'humanité entière, à commencer par l'écologie et la préservation de l'environnement, qui est une priorité, mais qui est la priorité essentielle pour de n'importe quelle question de géopolitique. Moi, c'est ça qui me paraît évident, c'est préserver l'environnement et s'occuper de la dignité humaine. Donc ce sont deux critères que, effectivement, l'ONU ou l'OTAN ou toutes ces instances ignorent, bafouent, piétinent à chaque fois qu'elles en ont l'occasion. Et ma foi, ça ne pourra pas durer, puisque tout le monde se rend compte que c'est terminé. Tout le monde se rend compte que l'attitude occidentale, américaine, sioniste, est injustifiée, injustifiable. Et alors ça, elle s'explique. Elle a des raisons parfaitement logiques, rationnelles, mais que ces gens-là eux-mêmes ignorent et dont ils ne veulent pas entendre parler, puisqu'ils se cachent derrière un discours effectivement religieux et que nous sommes en relation internationale sur un terrain laïque, avec un référent juridique d'ordre moral, effectivement, qui est celui de la dignité humaine, définie par les droits de l'homme, mais qui n'a rien à voir avec le discours religieux, pour le coup, derrière lequel se cachent les dirigeants d'Israël, puisque d'après eux, c'est uniquement par la parole de Dieu que l'État d'Israël leur a été attribué. Or, c'est faux. Je suis chrétien, j'ai lu un petit peu la Bible. Nulle part il n'a été dit que le Seigneur allait accorder la terre promise à un peuple raciste, dominateur, menteur, tricheur, qui bafoue la dignité humaine. Un tel peuple n'est pas l'ami de Dieu. Je ne vois pas comment un tel peuple serait honoré par Dieu d'une terre soi-disant promise. Non, Eretz Israël, c'est une métaphore. Ce n'est pas un morceau de terre physique, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être. Ça correspond à l'état d'être et à la mentalité, à l'état d'esprit que les Russes et les Chinois et les Iraniens commencent à incarner. C'est-à-dire des gens qui ont compris que la dignité humaine passait avant tout, que les échanges internationaux impliquaient la réciprocité et l'égalité des échanges pour que les deux parties puissent en profiter, et non pas qu'une seule partie en profite et écrase l'autre, comme le font les Américains et les Israéliens depuis 2000 ans, en s'imaginant être légitimé par la parole divine. C'est faux, la parole divine n'a jamais légitimé des horreurs et des abus pareils. Et je rappellerai effectivement aux talmudistes ou aux rabbins qui s'imaginent que c'est la parole de Dieu qui est appliquée en Israël, que même dans l'Ancien Testament, les sacrifices de sang ont été interdits par le Seigneur, par Yahvé. Vous ne ferez plus de sacrifices de sang, vous ne ferez plus souffrir et mourir des êtres vivants en croyant m'honorer et en croyant honorer la vérité et la justice divine. C'est aberrant. Et il a fallu que Jésus-Christ vienne il y a 2000 ans pour rappeler l'interdiction des sacrifices de sang. 600 ans après que Zoroastre lui-même en Perse, le prophète Zoroastre, avait également interdit et demandé d'arrêter de faire souffrir et de retirer une vie à un animal vivant en croyant honorer le ciel. Donc voilà le genre d'incompréhension et d'aberration auxquelles nous sommes affrontés et qui explique des situations aussi aberrantes que celle de l'État d'Israël qui se revendique de la loi de Dieu tout en trahissant la loi de Dieu. Et ça ne pourra pas durer longtemps.
Merci Monsieur Rouget, restez en ligne. Monsieur Rami, vous avez entendu l'analyse de Monsieur Rouget, mais vous avez aussi évoqué dans votre analyse que la force, il faudrait la répondre par la force. Donc à votre avis, quelle serait la solution exacte pour mettre fin à ces agressions israéliennes? Est-ce qu'on devrait s'attendre à des affrontements directs, à une guerre multidimensionnelle ou peut-être qu'il y aurait d'autres solutions à votre avis?
Oui, il faut savoir que cette occupation juive est une occupation totale. Et quand je dis total, ça veut dire que la force qu'ils utilisent, ce n'est pas seulement les armes, ils utilisent aussi la propagande, c'est-à-dire l'occupation idéologique, l'occupation intellectuelle, l'occupation médiatique. Et s'ils occupent la Palestine militairement, mais ils n'ont pas réussi à occuper les cerveaux palestiniens, c'est-à-dire idéologiquement, ils n'ont pas pu occuper les cerveaux. Les Palestiniens sont conscients qu'ils sont occupés. Hein? c'est dans l'organisme humain, il y a des microbes, des virus qui font leur travail de virus. Il y a les anticorps, les résistants, qui font leur travail de résistants. Mais quand le corps n'est pas conscient qu'il y a une occupation, c'est-à-dire quand donc ça devient un cancer, quand il n'y a plus de résistance dans le corps humain, et aussi dans le corps, c'est-à-dire de l'humanité, les sionistes jouent le rôle de microbes. Et si les Palestiniens sont conscients que c'est un microbe et qu'ils luttent et qu'ils résistent, en Occident, c'est-à-dire sur le plan international, les sionistes n'occupent pas militairement, mais ils occupent intellectuellement, ils occupent les pays, tous les pays dans le monde entier, médiatiquement, intellectuellement. Et c'est pour cela que, par exemple, vous voyez, dans tous les pays où j'habite en Suède, tous les grands journaux, tous les journaux, toutes les maisons d'édition sont juives, sionistes, occupées par des juifs. Et en France, c'est la même chose, tous les grands journaux, tous les grands... C'est-à-dire, et pas ça seulement, c'est que le Parlement américain est un territoire occupé par Israël. Ce qui, aujourd'hui, ont le pouvoir aux États-Unis, c'est AIPAC. Aucun ne peut devenir, devenir candidat à la présidence sans venir d'abord présenter l'allégeance à AIPAC, au congrès de l'AIPAC. Et la même chose en France, le lobby sioniste juif en France, c'est-à-dire le CRIF, organise chaque année un dîner. Et tous les politiciens français sont inquiets de ne pas être invités, parce que c'est là où des gens décident qui va être le président, qui va avoir le pouvoir en France. C'est le CRIF, c'est-à-dire le lobby juif en France. Et c'est la même chose dans tous les pays. C'est-à-dire le Maroc aussi est occupé, pas seulement les pays occidentaux, les pays arabes sont tous maintenant occupés. Le seul pays aujourd'hui dans le monde entier qui n'est pas occupé, c'est la République islamique d'Iran. Il n'est pas occupé intellectuellement, il n'est pas occupé militairement, donc c'est libre. Alors que l'Occident, le reste, donc, tous les l'Est et l'Ouest sont occupés par les sionistes. Et si vous voyez, par exemple, maintenant, ils disent qu'ils luttent, c'est-à-dire l'OTAN lutte contre... pour c'est-à-dire la loi de la jungle en Ukraine, et soutient les victimes, c'est-à-dire les Ukrainiens, hein, qui sont eux-mêmes gouvernés par un sioniste, par un juif qui est ami de Netanyahou. Mais en Palestine, en question palestine, il soutient, c'est-à-dire l'Ouest et l'Est, soutient ouvertement Israël, l'occupation juive. Ouvertement, soutient la loi de la force, la loi de la jungle, l'occupation. Alors que en Ukraine, ce qu'ils considèrent eux, c'est-à-dire des occupés, c'est-à-dire les Ukrainiens, ils soutiennent les Ukrainiens, mais en Palestine, ils soutiennent les occupants. Vous voyez et d'ailleurs, vous voyez, par exemple, la Chine a des très bonnes relations avec Israël. Poutine reconnaît, c'est un ami de Netanyahou, hein, c'est-à-dire soutient Israël.
Oui, merci.
Et donc, en réalité, les sionistes Israël occupent militairement la Palestine et occupent politiquement le reste du monde entier aujourd'hui. Ils sont programmés pour cela. Ils occupent dans tous les pays, dans tous les temps, ils ont toujours occupé tous les pays politiquement, économiquement et médiatiquement. Et aujourd'hui, c'est le même problème, seulement comme je dis, si les Français et les Américains ne sont pas conscients de cette situation, c'est devenu un cancer.
Merci pour vos explications, Monsieur Rami. Monsieur Rouget, nous avons 2-3 minutes devant nous. Le mot de la fin et la conclusion est à vous.
Bien, ma foi, pour rebondir sur votre question précédente, je ne vois pas comment l'usage de la force pourrait résoudre ce problème, puisque l'État d'Israël occupe la terre promise des trois religions du livre. Il n'y a pas que les Hébreux qui soient concernés par Israël, il y a aussi les chrétiens, il y a aussi les musulmans. Ce qui, à mon avis, interdit toute opération militaire au sol. Car cela entraînerait nécessairement la destruction d'un véritable trésor commun de l'humanité, à commencer par les lieux saints, le Saint-Sépulcre, tout ce qui se trouve à Jérusalem, la mosquée Al-Aqsa, et ainsi de suite. Donc je ne vois pas quelle puissance pourrait prendre le risque de détruire ce patrimoine-là, ce qui veut dire que le seul recours que nous avons, et en plus, comme vient de le rappeler monsieur, la puissance israélienne est très peu fixée ou cristallisée quelque part, mais elle est répandue, effectivement, au sein des élites et des gouvernements de tous les pays d'Occident. C'est effectivement une petite communauté en nombre, mais très puissante en influence. Donc c'est à ce niveau-là, effectivement, que l'action, à mon avis, peut être entreprise. Mais, encore une fois, elle ne peut pas être entreprise de manière, encore une fois, concentrée, mais disséminée. Et elle ne relève pas d'une puissance militaire, mais plutôt d'une puissance intellectuelle et morale, donc du même ordre que celle que déploie la puissance sioniste pour s'imposer. Eh bien, il appartient simplement aux citoyens du monde entier de réaliser cette menace, de se rendre compte que le discours et la propagande sioniste sont de mauvaise foi et sont mauvais pour tout le monde, n'apporteront aucune conséquence positive à qui que ce soit, et qu'à partir de là, il faut l'ignorer, il faut s'en détacher. Et ma foi, l'influence de ces gens-là s'atténuera et se dégonflera comme un ballon, parce que plus personne n'y prêtera attention, parce que ces gens-là ne tiennent pas un discours sérieux et ils sont déconnectés de la réalité. Donc, continuons, pour les gens de bon sens, on va dire, à incarner la réalité, à respecter la réalité. Et plus ça ira, et plus l'influence de ces gens-là ira en diminuant. Et jusqu'au moment où ils se rendront compte que personne ne les écoute, que personne ne les prend au sérieux, et que s'ils veulent continuer à faire partie de l'humanité, il va falloir qu'ils s'y adaptent, eux, au lieu de forcer le reste du monde à s'adapter à eux.
Merci infiniment. Merci alors Alexandre Rouget, journaliste et écrivain, Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède, était avec nous pour cette émission. Merci également à vous, à toutes et à tous, d'avoir été avec nous pour cette émission. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Au revoir. Merci.
Afrique économique.
Chers auditeurs, auditrices, mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de l'Afrique Économie. L'Afrique Économie est une émission durant laquelle nous essayons de passer en revue les actualités économiques les plus importantes du continent africain, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Restez avec nous. Standard Chartered trouve un accord avec Access Bank pour la vente de 5 de ses filiales en Afrique. Standard Chartered a annoncé ce 14 juillet 2023 avoir conclu un accord avec Access Bank pour lui vendre ses filiales dans 5 pays d'Afrique subsaharienne. Il s'agit de l'Angola, du Cameroun, de la Gambie, de la Sierra Leone et Tanzanie. Cette attente reste ajustée aux approbations réglementaires des régulateurs de chaque partie. Selon la banque britannique, la transaction avec la banque nigériane ne devrait pas aboutir avant 12 mois. Le temps pour les deux parties de travailler en vue d'assurer une transition saine. En avril 2022, Standard Chartered Bank avait annoncé vouloir se désengager de 7 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Par rapport à cette annonce,
On constate que le projet est maintenant pratiquement achevé, indique Sunil Kochhal, PDG pour la région d'Afrique et Moyen-Orient, Standard Chartered. En mars, le groupe avait indiqué au Kenya qu'il se recentrerait sur le marché de détail. Nous sommes désormais en mesure de nous développer à grande échelle sur le segment de la grande distribution et d'atteindre non pas des milliers mais des millions de clients grâce à la technologie, avait déclaré le directeur général de cette filiale, Kariuki Gari, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs après avoir annoncé un bond de 68% du bénéfice en 2021. Déjà, 2021 avait été une année exceptionnelle pour la région Afrique et Moyen-Orient de Standard Chartered, selon Sunil Kochhal, cité dans un communiqué de Standard Chartered Bank. En Angola, Gamecore Holding et ses partenaires annoncent le bouclage financier de la raffinerie de pétrole de Cabinda. La raffinerie permettra de traiter 30 000 barils de pétrole brut par jour. Dans sa première phase, cette capacité sera ensuite portée à 60 000 barils par jour afin de couvrir 20% des besoins du pays en produits pétroliers raffinés. La société d'investissement britannique Gamecore Holding, Africa Finance Corporation et la Banque africaine d'import-export ont annoncé dans un communiqué conjoint, publié jeudi 13 juillet, le bouclage financier de la raffinerie de pétrole de Cabinda en Angola. Cette raffinerie sera financée par 138 millions de dollars déjà apportés en fonds propres par les promoteurs du projet, en l'occurrence Gamecore Holding, et la compagnie pétrolière nationale angolaise Sonangol, ainsi que par une facilité de crédit de 335 millions de dollars dirigée par l'AFC, Afreximbank et un pool d'institutions financières internationales et locales, a-t-on précisé de même source. La facilité de crédit ouvre la voie au démarrage des travaux de construction de la raffinerie qui permettra de traiter 30 000 barils de pétrole par jour dans une première étape. La deuxième phase du projet devrait porter à terme la capacité de la raffinerie située dans la province de Cabinda à 60 000 barils par jour. Une fois la première phase achevée, la raffinerie devrait satisfaire environ 10% de la demande totale du pays en produits pétroliers raffinés, puis environ 20% après l'achèvement de la deuxième phase, tout en générant plus de 1 300 emplois directs et indirects. Gamecore Holding et ses partenaires ont également précisé que d'autres institutions financières contribuent au financement du projet, dont l'Industrial Development Corporation, une institution financière contrôlée par le gouvernement sud-africain, la Bancara pour le développement économique en Afrique et la Banco de Fomento Angola. Producteur africain majeur d'or noir, l'Angola dispose d'une faible capacité de raffinage local. En Tanzanie, Volt publiera début août l'étude de faisabilité actualisée du projet de graphite Bunyu. Hébergeant le plus grand gisement de graphite tanzanien, le projet Bunyu nécessite un capital de 32 millions de dollars pour entrer en production. Selon une étude de faisabilité publiée en 2018, le propriétaire Volt Ressources a néanmoins lancé une réévaluation en août 2022. Le résultat de l'étude de faisabilité mise à jour pour la phase 1 du projet de graphite Bunyu en Tanzanie seront disponibles début août 2023. C'est l'annonce faite le vendredi 14 juillet par l'Australien Volt Ressources, propriétaire de l'actif. Nous sommes très reconnaissants à nos différents consultants experts dont le travail acharné a été inestimable et nous prévoyons d'être en mesure de fournir un résultat positif pour les investisseurs, a commenté Prashant Chintawar, DG de la compagnie reconnaissant, en passant un retard dans la livraison des travaux. Une optimisation des paramètres clés du projet est espérée, notamment les estimations du coût d'exploitation et de capital ou encore la durée de vie de la mine. Rappelons que d'après les données de 2018, les fonds nécessaires pour lancer la production s'élèvent à 32 millions USD. La mine devrait livrer 23 700 tonnes de graphite par an durant sa première phase d'exploitation. La phase 2, quant à elle, devrait permettre de livrer annuellement jusqu'à 170 000 tonnes. Plus tôt cette année, Volt Ressources avait indiqué que des accords de vente ont déjà été conclus pour toute la production de la phase 1 dans ce pays. Transport aérien, les coûts du fuel sont plus abordables en Afrique, une opportunité pour le secteur. En Afrique, les prix du carburant pour avions affichent une moyenne en baisse en comparaison avec d'autres régions du monde. Il n'est cependant pas certain que cette embellie contribue directement à une plus grande dynamique du secteur. Des opportunités de croissance existent pourtant. Les prix du jet A1 sont désormais plus abordables en Afrique selon des données fournies par un site internet spécialisé et consulté le 14 juillet par l'agence Ecofin. Sur la plateforme concernée, les prix de ce produit utilisé comme carburant pour les avions sont majoritairement à 1,99$ le gallon dans les principaux pays africains qui sont également des marchés clés pour le transport aérien du continent. Cette information est une évolution par rapport aux déclarations faites lors de la rencontre des membres de l'Association du transport aérien international qui s'est tenue les 20 et 21 juin dernier en Éthiopie. Au cours de celle-ci, il a été évoqué que l'Afrique est le continent où le coût du carburant pour les avions continue d'être le plus élevé avec un écart de près de 20% par rapport aux pays de l'Amérique du Nord. La présentation rappelle cependant que l'information se base sur une enquête menée en juin 2021 auprès de plusieurs aéroports, dont 33 en Afrique. La période était effectivement marquée par des coûts élevés du prix du baril de pétrole, ainsi que des délais d'approvisionnement post-Covid, ce qui pourrait expliquer les coûts plus élevés de ce produit dans les pays africains. Les prix actuels suggèrent que la situation se détend et qu'il serait désormais plus économique pour une compagnie comme Delta Airlines de se fournir en carburant à Accra ou Lagos plutôt qu'à New York ou Washington DC. Au Ghana, Tullow et ses partenaires officialisent l'entrée en production de Jubil Southeast. Fin juin, Wissam Al-Montiri, le directeur de la filiale au Ghana de Tullow Oil, révélait l'ambition de la société et de ses partenaires de porter la production de brut du gisement Jubil à 100 000 barils par jour d'ici la fin de l'année. Au Ghana, la compagnie pétrolière britannique Tullow, ainsi que ses partenaires sur le périmètre pétrolier de Jubil, ont annoncé ce vendredi 14 juillet l'entrée en production du projet pétrolier Jubil Southeast situé dans les eaux territoriales du pays. L'opération annoncée depuis quelques semaines s'est concrétisée par la mise en service du premier puits de production du site. Deux autres puits producteurs ainsi qu'un puits injecteur d'eau devraient suivre le même processus d'ici la fin de l'année. Les parties prenantes tablent sur une production d'huile de plus de 100 000 barils par jour une fois que ces différents objectifs auront été atteints. Pour cela, elle prévoit une campagne de forage de plusieurs puits intercalaires au cours des prochaines années. Plusieurs perspectives permettant d'optimiser l'exploitation du gisement ont déjà été identifiées. Notons que le projet JSE, c'est environ 1 milliard de dollars d'investissement sur les dernières années pour une contribution à la valorisation du contenu local de plus de 90%, une avancée qui met en exergue l'expertise opérationnelle développée par les fournisseurs ghanéens dans l'autonomisation de l'industrie pétrolière locale. Pour Raoul Dir, le directeur général de Tullow, le démarrage réussi de Jubil Southeast est une étape importante pour Tullow et pour le Ghana. Nous sommes bien positionnés pour la croissance future avec une montée en puissance de la production au second semestre 2023 qui générera un important flux de trésorerie disponible.
Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.